De retour pour ce dernier bloc dont on a des choses à dire. Stéphane Martin qui est en compagnie du chroniqueur de la semaine. C'est comme ça qu'on appelle ça, Stéphane?
Ben oui, on va lui donner ce titre-là.
Jocelyn Dano. La saveur de la semaine.
La saveur de la semaine. Jocelyn Dano qui est avec nous pour discuter, encore une fois, du projet du pont entre Sorel-Tracy et Lanneret. Moi, je pense qu'un projet dont on ne parle pas, c'est un projet qui n'existe pas. Alors, on a des choses à dire. On va être là pour en parler et le faire exister, ce projet.
Donc, c'est un projet qui existe.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, votre regroupement est très actif. Vous l'avez sur les cartons, ce projet-là.
Ouais.
Donc.
Ben, le regroupement dont vous parlez, c'est le regroupement des citoyens et des citoyennes pour la construction d'un pont à Sorel-Tracy à l'horizon, entre Sorel-Tracy et Lanneret à l'horizon 2028, qui est présidé par M. Richard Saint-Germain, là, qui est avantageusement connu dans la région. On est actuellement, on est 189 adhérents. Là. Puis si vous me permettez le pitch de vente.
Allez-y.
Ceux qui veulent adhérer, ils ont juste à m'envoyer un courriel à jodano@videotron.ca. Là. Puis c'est une adhésion qui est gratuite.
Et de toute façon, toutes les fois qu'il y a un communiqué qui est émis, ne serait-ce que sur la page Facebook de ce regroupement-là, il y a plusieurs partages. On voit que les gens y croient. Donc, quand je dis qu'un projet qui n'existe pas, c'est un projet dont on ne parle pas, ben on en parle. Puis dites-moi, on en est où? Là-dedans, il y a plusieurs enjeux de relier à tout ça. Hein?
Ben, écoutez, pour l'instant, ben, de vous dire qu'on chemine, comme je viens de vous mentionner, on a 189 adhérents. Là, on est en train de travailler pour avoir un Richard Saint-Germain sur la rive nord. On est en train de travailler. Il y a différentes discussions qui sont en cours. On est en train aussi d'organiser un 5 à 7 de mobilisation là, qui devrait avoir lieu au début mai. La date n'est pas tout à fait exactement arrêtée au moment où l'on se parle, parce qu'il va y avoir des conférenciers, mais ça sera une occasion pour les gens de se mobiliser, les citoyens de se mobiliser et de venir entendre de différents conférenciers, dont sûrement M. Poirier là, qui sera présent parmi nous.
M. Poirier, qui est Luc Poirier, qui est l'homme qui dit « Moi, j'ai de l'argent pour un projet comme celui-là », donc c'est un homme privé, une entreprise privée.
Une entreprise privée.
Qui voudrait faire un pont sur des terres qui sont publiques.
Des terres publiques.
Et ça, c'est un gros défi, là, dans le fond. Hein.
Il y a un enjeu réglementaire important dans ce domaine-là. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que, prenons l'exemple du pont de la A25, que
l'autoroute
tout le monde
25.
Connaît. C'est une concession qui a été donnée à une entreprise australienne, Transurbain, qui va gérer le projet de la A25 pendant 35 ans. Donc, ils vont recevoir les revenus, ils vont garder les revenus, sauf un certain pourcentage qui est versé au ministère des Transports. Mais ce projet-là, c'est un projet public avec une concession privée et à la fin, l'équipement, notamment le pont, revient au gouvernement en 2042.
Donc, revient au public.
Au public. Dans le cas de M. Poirier, lui, ce qu'il dit, c'est « moi, je vais payer le pont, l'immobilisation, disons 500 millions, faire un chiffron, et à la fin, je garderai le pont. Dans l'intervalle, les frais d'exploitation me seront payés par le gouvernement parce que de toute façon, le gouvernement paye le traversier.
Ouais.
Alors, le modèle d'affaires de M. Poirier, c'était qu'il y avait un transfert annuellement qui se faisait des argents du traversier vers les frais d'exploitation du pont. Alors, c'était ça qui était le modèle d'affaires au début du projet. Dans l'intervalle, le gouvernement, pour des raisons qui lui appartiennent, a décidé de faire la rénovation, notamment des terminaux, au niveau de la traverse.
Oui, et là, on le voit présentement, là, on est dans le chantier de construction ici à la traverse.
Absolument. Ce qui fait que cet aspect-là du modèle d'affaires est plus difficile. Mais il en demeure pas moins que, un, il y aura des traversiers nouveaux à construire, et c'est que l'hypothèse aussi, c'est que les retombées économiques du projet vont être telles que le gouvernement pourrait se compenser fiscalement par des revenus d'impôts et des revenus de taxes.
Et là, les traversiers nouveaux, juste pour qu'on dise pas n'importe quoi, en fait, c'est les traversiers de Tadoussac qui seront transférés ici à Sorel-Tracy.
Ouais,
c'est ce que dans les plans.
C'est ce que dans les plans, mais il va y avoir aussi des nouveaux traversiers parce qu'à Tadoussac, il va en avoir des nouveaux. Donc,
qui sont déjà en construction.
En construction. Alors, tout ça, lui, ce qu'il dit, c'est au lieu de construire des traversiers, versez-moi les sous. Okay? Et ce qu'il faut dire, c'est qu'un équipement comme un pont, de tout temps, là, même à l'ère de l'économie numérique, de tout temps, les voies de transit sont des formidables outils de développement économique. Parce que même si on est à la radio, vous pouvez vous figurer une espèce de quadrilatère de transport, okay, qui irait de Sorel-Tracy à la Norêt, avec la 40, avec Montréal et avec la 30, dans lequel, là, tu aurais, si vous voulez, un ensemble de facilités de développement économique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, notamment avec la construction du port de Contrecoeur, d'une part, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'opportunités de développement économique là, et d'autre part, ça va rajouter 1200 camions par jour, tous les jours, dans l'axe de la 30. Non. Puis, quand on sait que déjà, présentement, au niveau de l'intersection de la 10, et de la 30, et de l'intersection de la 20 et de la 30, c'est congestionné à tous les jours. Alors, rajouter 1200 camions-là n'améliorera pas le transit.
C'est pour ça, entre autres, qu'il y a un comité qui s'est formé là, sur la coalition.
Il y a une coalition qui s'est formée, qu'on appelle la coalition de l'A30, okay, qui regroupe les principales chambres de commerce de la Rive-Sud, de la Montérégie, et au-delà d'une quarantaine de municipalités qui sont représentées par leur maire dans cette coalition-là, qui demande au gouvernement, d'une part, de trouver des solutions à la congestion de la 30, notamment dans le contexte de l'avènement du port de Contrecoeur.
Et de cette coalition-là, on a vu la CAQ, entre autres, appuyer tout ça, être les premiers à appuyer la coalition. Et par la suite, Sylvain Rochon et le Parti québécois, ouais, par le fait même, se sont rangés derrière.
C'est parce que là, on est dans un contexte électoral, hein, ce qu'il faut comprendre. Alors,
ben, c'est là que je vous amenais.
Là, on est dans un contexte électoral. Prenons l'exemple du pont. Ouais. OK? Il y a M. Rochon ici sur les ondes, parce que, comme je vous le disais tantôt, il y a un enjeu réglementaire au travers du projet de M. Poirier, notamment au niveau de la loi sur les marchés publics et sur les appels d'offres. Parce que, naturellement, on est obligé d'aller en appel d'offres, donc tu invites tous les fournisseurs. Puis M. Poirier, comme il a investi, il s'attend, okay, à ce que d'avoir le contrat. Donc, ça prend une exception aux lois sur les marchés publics, puis ça prend une exception aussi sur les lois, sur les accords commerciaux, notamment avec l'Ontario, sur les contrats de service. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'enjeu nouveau réglementaire, c'est que M. Rochon, lui, ouais, ce qu'il dit, c'est que nous, on va respecter la réglementation. Donc, on va cheminer, et puis à un moment donné, il y aura un appel d'offres, puis M. Poirier pourra bider. Bon, c'est un choix qui se défend. Mm-hmm. Ce qu'on sait, sans le savoir de façon officielle, c'est que la coalition Avenir Québec serait favorable à la construction du projet de pont. Mais on le sait aussi, le diable est dans les détails. Alors, comment est-ce que tout ça va se traduire, OK, en termes de réglementation? Sauf pour l'instant, on ne le sait pas.
Si je comprends bien, on a entre les mains un projet qui pourrait être une première au Québec, un peu, oui, comme le parc éolien de Pierre de Sarel a été une première au Québec, que ce soit 100% d'intérêt communautaire.
C'est 5%. Là, parce que là, parce qu'encore une fois, comme vous mentionnez d'entrée de jeu, c'est que c'est un équipement privé sur une terre publique. Oui, ouais, ça serait une première. Ça serait une première parce que pas un modèle comparable à celui de la A25. C'est pas un modèle qui est comparable aussi à la construction du Colisée de Québec, ouais, pour accueillir les éventuels Nordiques qui, probablement, ne viendront jamais. Mais ce qu'il faut dire...
Dites-moi pas ça, vous.
Mais
j'y crois, moi.
Mais ce qu'il faut dire dans ce cas-là, dans le cas, ouais, du Colisée à, ouais, Québec, c'est que ça a nécessité un projet de loi privé, ouais, pour prendre exception sur la réglementation pour pouvoir favoriser Pierre-Calpelado et la construction de cet équipement-là. Donc, on ne peut pas dire, d'un point de vue réglementaire,
que ça se fait pas.
Que ça ne se fait pas. Okay? Donc, moi, ce que je dis aux gens, ce que je dis aux adhérents, c'est qu'on peut faire des études, okay, comme la ville de Sorel-Tracy l'a demandé, ce qui est tout à fait sain, excepté que là, au moment où l'on se parle, okay, au moment où l'on se parle, l'argent est là. L'argent est sur la table.
Ouais.
Alors là, parce que c'est le seul projet... au Canada, où l'enjeu de financement n'est pas là. Parce, ouais, que toutes les fois, c'est un enjeu de financement. En plus des enjeux environnementaux, en plus des enjeux réglementaires, en plus des enjeux politiques, là, l'enjeu de financement n'est pas là. Alors là, moi, je me dis... Puis les politiciens, pour toutes sortes de bonnes raisons, comme ils avancent, OK, en zone inconnue, ils sont assez peu chauds parce qu'ils sont habitués...
Ils sont prudents.
Alors moi, je le dis, ouvrez vos esprits, parce que ce qu'on dit souvent, vous connaissez l'expression, sortir de la boîte, sortir de vos paradigmes. Parce que même une organisation comme la Chambre de commerce de Sorel-Tracy, dans la proposition Poirier, puis là, je leur dis, ils sont froids. Ça rentre pas dans le modèle institutionnel, ils savent pas trop comment faire. Mais ils ne viennent pas l'explorer. Alors là, Avant de dire non, il faudrait peut-être savoir c'est quoi.
Alors, l'invitation est pratiquement lancée, c'est ce que je comprends là, dans cette soirée d'information qui aura lieu au mois de mai.
Ben, c'est un 5 à 7 de mobilisation, comme je vous le mentionnais. Mmh. Moi, j'invite toute la population à venir. C'est sûr, certain, bon, ça va être un cocktail 5 à 7, il va y avoir des frais, là, mais si les gens sont réellement décidés, puis s'ils veulent envoyer à l'aube de la campagne électorale un message clair, net et précis à la classe politique, c'est en plein temps.
Vous fixez l'objectif 2028.
Oui.
Pourquoi?
Bien, 2028, bon, premièrement, juste la construction, c'est 2 à 3 ans. Tout l'enjeu réglementaire, c'est plusieurs années, les audiences publiques, toute l'acceptabilité sociale. Ce qu'il faut savoir, la préparation des plans de devis, ce qu'il faut savoir, vous avez parlé de parc éolien, Pierre de Sorel, tantôt, c'est un projet qui a duré 10 ans entre l'idée de base et le fait que les turbines ont commencé à tourner. Ça prend énormément de temps. Mm-hmm. Alors, nous, actuellement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va fixer ça. Peut-être 2028 ou avant, là.
Oui.
C'est pas dogmatique, là. Mais accepter qu'il faut aller de l'avant. Bien, puis 2028 nous apparaît une date relativement
raisonnable.
Raisonnable.
On invite les gens à vous suivre également, M. Dano. Merci du temps que vous nous avez consacré aujourd'hui.
Pas de plaisir.
Louis-Philippe, c'est oui. Déjà tout le temps que nous avions.
Oui.
On tient à remercier nos invités. D'abord, Yves Fortin du regroupement des assistés sociaux du Bas-Richelieu. Mm-hmm. Martine Bourgeois également, l'agricultrice de l'année, la femme de l'heure actuellement dans la région de Richelieu qui était avec nous. Et M. Jocelyn Dano également. On se fixe rendez-vous jeudi prochain et ce, dès midi.
Excellent. Et pour ceux qui veulent réentendre cette entrevue ou ces entrevues-là, ce soir de 19h à 20h sur les ondes de CJSO et ça sera disponible aussi au cjso.ca.
Salut!
Salut!